présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Ni avec qui? Ce n'est sûrement pas avec une personne de son milieu. Il ne va jamais à aucune soirée. Alors, il sort avec qui? Un soir, en passant devant la porte du salon, il entend sa mère dire « Il avance en hache, il n'a aucune petite amie. » Pas le moindre flirt. Je sais, cela commence à m'inquiéter. Remarque, il a peut-être une aventure avec une petite qui n'est pas de notre milieu. Pourvu qu'il ne s'amourache pas d'une petite quelconque. Nous verrons bien. Mais il faudra penser à lui présenter quelqu'un. Oui. et s'éloigne en se demandant comment il va faire pour se débarrasser de cette corvée. Et puis tant pis pour eux. Ils verront bien que je suis incapable d'aimer une jeune fille. Midi, il est dans sa chambre à étudier, on frappe à sa porte. Entrez. C'est sa mère.
Tu es là, chérie. Peux-tu venir prendre le thé avec moi?
J'ai étudié, mère.
Tu peux bien prendre un quart d'heure. Fais-moi plaisir. J'ai une vieille amie à te présenter.
Bien. J'arrive. Il ferme son livre et suit sa mère qui le mène au salon. Là, il trouve assis sur une chaise une jeune fille, grande, mince, élégante, pas vraiment belle, mais sympathique. Elle a 18 ans, est habillée d'une robe beige. Sa mère s'approche d'elle et dit
« Mademoiselle Fernande Delaire, mon fils. »
Mademoiselle ?
Monsieur,
ils s'assoivent. Émile est ému et aimerait être à 100 lieues d'ici. La jeune fille ne dit rien non plus. La mère dit
« Mademoiselle est là. » Fille de mes amis de Bourgogne, et vient s'installer chez sa tante à Lyon pour ses études. Et elle aimerait avoir connaître un peu quelqu'un. Elle ne connaît personne dans cette ville. Alors, on a pensé à nous. Mademoiselle aimerait beaucoup aller au cinéma. Tu pourrais l'inviter, toi qui l'aimes tant.
C'est-à-dire que je suis très pris pour mes études.
Vous faites des études de quoi, monsieur ?
Demande la demoiselle.
D'ingénieur chimiste.
Et vous, mademoiselle ?
Littérature.
Ah !
Et vous voulez être professeur ?
Non,
je fais juste ça pour m'amuser. J'aime les livres et c'est tout. J'ai pas du tout l'intention de travailler.
Ma famille est suffisamment riche. Laissons le travail à ceux qui en ont besoin.
Nous ne prenons pas la place d'un chômeur.
Voilà qui est bien dit, mademoiselle, dit-il.
Après-midi, qu'il est dans sa chambre à étudier, le frappe à la porte.
Entrez.
C'est sa mère. Tu es là, chérie. Peux-tu venir prendre le thé avec moi?
J'ai étudié, mère.
Tu peux bien prendre un quart d'heure. Fais-moi plaisir. J'ai une vieille amie à te présenter.
Bien. J'arrive. Il ferme son livre.
suit sa mère qui le mène au salon. Une chaise, une jeune fille, grande, mince, élégante, pas vraiment belle, mais sympathique. Elle a 18 ans et est habillée d'une robe beige. Sa mère s'approche d'elle et elle dit « Mademoiselle Fernande Dollaire et mon fils, mademoiselle, monsieur » et ils s'assoivent. Émile est ému et aimerait être à 100 lieues d'ici. La jeune fille ne dit rien non plus. La mère dit « Mademoiselle est la fille de mes amis de Bourgogne. Elle vient s'installer chez sa tante à Lyon pour ses études. Et elle ne connaît personne dans cette ville. Alors ils ont pensé à nous. Mademoiselle aime beaucoup le cinéma, tu pourrais l'inviter, toi qui l'aimes tant. » C'est-à-dire que j'ai mes études. Vous faites des études de quoi, monsieur ? D'ingénieur chimiste. Et vous, mademoiselle ? Littérature. Ah, et vous voulez être professeur ? Non, je fais juste ça pour m'amuser. J'aime les livres, c'est tout. J'ai pas du tout l'intention de travailler, ma famille est suffisamment riche. Laissons le travail à ceux qui en ont besoin, ne prenons pas la place d'un chômeur. Voilà qui est bien dit, mademoiselle. Je dois reprendre mes études, sa mère lui dit.
Déjà ?
Et oui. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. La mère leur dit.
Je vous en prie, ne faites d'importantes manières. Vos parents se connaissent depuis l'enfance. Émile, ne peux-tu pas inviter Fernande un de ces soirs au cinéma ?
C'est-à-dire que...
Ne sois pas timide.
Bien, jeudi prochain, il y a un film que vous aimeriez voir?
Non, pas vraiment. Je suis assez cinéphile, mais
je vous laisse le choix.
Bien, je verrai le programme. Nous devons nous donner rendez-vous. Où et quand?
Tu iras le chercher chez elle.
Venez à 20h30.
Bien.
À jeudi alors,
et il les quitte.
Il se dit, quelle corvée! samedi, raconte à Jérôme, en le raccompagnant à la gare, qu'on cherche à lui faire courtiser une jeune fille de famille. Jérôme rit et lui dit « Je m'imagine la chose. Toi, il met une fille à papa dans le salon de thé. Tu l'embrasseras ? Surtout pas. Il n'y a qu'à fermer les yeux et penser que c'est moi que tu embrasses. Ce sera un peu difficile. Pourquoi ? Ma peau n'est pas aussi douce que celle des jeunes filles. C'est pas cela. Pour moi, tu es mille fois mieux qu'elle. Oh, je t'en prie, ne cherche pas à m'embrasser. Malheureusement. Non, puisque tu ne le veux pas. Jeudi soir, il est venu la chercher chez sa tante qui habite un immeuble bourgeois rue Créqui. Il a ouvert une petite femme toute maigre avec des cheveux blancs habillée d'une robe noire.
C'est vous le jeune homme ?
Oui, madame.
Attendez un peu. Vous connaissez les filles. Il lui faut du temps pour se préparer. Venez vous asseoir au salon.
Elle le mène dans un petit salon Louis XV, tout rose. Elle le fait asseoir.
Vous désirez boire quelque chose ? Non, merci.
Et c'est Fernande, dans une robe rose.
Bonjour, pardonnez le retard.
Il se lève.
Venez, partons de suite.
Au revoir, madame.
Au revoir, jeune homme.
Aller voir un festival Laurel et Hardy. Il a choisi ce programme croyant lui déplaire et aussi parce qu'il aime les deux acteurs. La soirée a été agréable, ils se sont beaucoup amusés. Elle ne fait pas de chichi pour rire. Cela lui a plu.
En vouloir à mon ami, il n'est pas ici.
Il se dit qu'elle est moins
le meilleur hôtel de votre belle cité.
Stupide qu'il ne le croyait. Ils sortent plusieurs jours ensemble. Il est moins gêné avec elle.
Mon panier. Hâte.
Il se dit, je me ferais bien ma copine s'il n'y avait pas les familles qui doivent rêver de nous marier. Quelle poisse la famille! Il décide de la voir, mais pas très souvent, et que ce soit elle qu'il demande. Les parents d'Émile semblent satisfaits que leur fils sorte avec Fernande. Son père dit à sa femme,
« Si après ses études, l'on pouvait les marier tous les deux. »
En tout cas, ils semblent très bien s'entendre. Le temps passe. Midi, Fernande prend le thé avec Émile et sa mère. Elle leur dit, je ne sais pas si je peux le demander, mais dites-le, ma petite. Voilà, je suis invitée chez des amis à Courchevel et si Émile pouvait m'accompagner, nous pourrions faire du ski. Les amis sont d'accord et c'est un grand chalet et il y a beaucoup de pièces, de chambres.
Émile, réponds à Fernande.
Émile est surpris. Partir plusieurs jours avec une jeune fille, c'est beaucoup.
Je ne sais pas. J'ai à préparer mes examens. Ce ne serait que pour quelques jours. Du jour de Noël au Nouvel An. Moi qui n'aime pas les fêtes. Même vous n'aurez rien à craindre, nous non plus. Nous ferions des balades, et c'est tout.
Alors, qu'est-ce que tu en penses?
Je ne sais pas.
La mère dit à la jeune fille,
il est très routinier.
Il leur dit de Guerlas, c'est-à-dire que j'ai mes examens préparés.
Vous pourriez amener avec vous vos cours. Vous aurez une chambre à vous tout seul pour être tranquille.
Tu vois, mon chéri, tu ne peux plus refuser.
Bien, c'est d'accord, la mère dit.
Que je suis heureuse, tu verras, tu ne le regretteras pas.
Il se dit, elle me voit déjà mariée.
Le samedi soir, il retrouve Gérard, puis Jérôme. Il est triste, car il se dit qu'il ne le reverra pas pendant 2 semaines.
Il dit à Gérard,
J'aurais aimé partir avec toi. » Il lui dit, « Surtout pas, je déteste la neige. » Moi aussi, mais nous aurions été dans une île du Pacifique, que tous les deux, sur la plage déserte. Jérôme lui dit, nous aurons tous les deux notre corvée, toi la neige, moi les gâteaux, le fait de fin d'année pour moi, c'est l'enfer. Décembre, tenue de ski, sac au dos de voyage et ski avec chaussures, Émile est dans le taxi pour aller prendre Fernande chez sa tante. Il est furieux. Il fait arrêter le taxi devant l'immeuble et lui dit d'attendre, puis sort de taxi et appelle par interphone Fernande qui descend de suite. La voilà, en tenue de ski et tout quoi. Elle est en rose, lui en bleu. Heureusement qu'ils ont pris leur billet à l'avance, car les guichets sont inabordables. Foule immense, avec tout leur barda. Émile est épouvanté. Regarde le tableau d'affichage. Quai 1, Sud. Il essaie de se faufiler. C'est pas facile. Avec tous ces trucs que l'on porte, Fernande essaye de le suivre. Descend l'escalateur pour aller au quai 1 Sud, avec toute cette foule qui pousse, enfin, sur le quai, attendre le train, ou plutôt ce que l'on appelle la Micheline, en plein vent, et en plein nord, ce qui n'est pas évident. Émile est gelé. Malgré ses gants, il ne sent plus ses mains. Il n'ose pas regarder Fernande de peur qu'elle devine son désarroi. Enfin, le train arrive. La porte s'ouvre. Les gens s'engouffrent dedans avec tout leur barda. Même en première classe, c'est bondé. Les skis et bagages sont déposés devant la sortie. Il arrive à trouver deux places, l'une à côté de l'autre. Ils les font leur parka et attendent le départ du train. On a mis chauffage. On a mis chauffage dans le wagon. Il y a une odeur étrange qui donne envie de vomir à Émile. Ça doit être un mélange de gasoil
de fumée humide et autre chose. Émile en rage, il aimerait être dans sa chambre, bien au chaud, avec du chocolat. Et ce soir, il aurait été faire un petit mimi à Gérard et Jérôme. De la Noël, il n'en a rien à foutre. De toute façon, il ne sait à peine ce qu'il est. Et dire que c'est pour ça que sa mère lui a donné de l'argent pour qu'il s'achète tout ce fatras. Avec tout cet argent, j'aurais pu largement m'acheter une caméra ou un bon ordinateur ou une bonne imprimante pour mes textes et mes futurs écrits. Avec ma caméra, je me serais amusé à faire un petit film avec mes deux amis. Un hommage à Patrick. Patrick, je penserai à toi ce jour de Noël. Mon Dieu, s'il est près de vous, ou si vous savez où il est, aimez-le et dites-lui que je l'aime toujours, toujours, toujours. Le train est parti. Émile est dans ses pensées. Émile est dans ses pensées. Il n'a pas fait attention que le train est parti. Il était avec Patrick. À quoi pensez-vous, Émile ? Il sursaut. Il sursaute. C'est Fernande qui est à ses côtés de lui. Il lui parle, il ne pensait plus à elle. À rien. Il n'est pas content d'aller à la neige. Oui, mais je serais mieux chez moi. Quel plaisir peut-on avoir à voyager dans des conditions comme celle-là? Il n'y a pas beaucoup de monde. Ce n'est pas grave. Le fait m'assis. Oui. Le voyage continue lentement. Le train s'arrête à chaque gare. Et se remplit de nouveau de voyageurs. Il est tout aussi encombré. Pourquoi continue-t-on à remplir les trains qui sont déjà surpeuplés, surchargés? Il interdit à une voiture d'être surchargée et d'avoir un nombre de personnes non prévues. Alors, pourquoi cela est-il autorisé pour les transports en commun? Pourquoi ne pas dire que le train a suffisamment de passagers et empêcher les voyageurs de le prendre? Un simple coup d'œil dans les wagons suffirait. Mais non. Par mesure de rentabilité, on bourre. Et lorsqu'il y a un accident, le nombre de morts est important. Il augmente. Après 3 heures de train, ils sont arrivés à la gare de Moutier, qui est le centre où convergent ce que l'on appelle les trois vallées. Et mis la mal au cœur. Les wagons, à cause du surpeuplement, est surchauffé et très humide, car les gens ont amené d'humidité dehors. Les chaussures et vêtements sont humidifiés le sol. Ceci donne une chaleur très désagréable et cette odeur très tenace du gasoil et autres qui amplifie et qui donne la nausée. Pauvre Émile qui est tout pâle. Il se lève de son siège, tout courbaturé, et essaye de se faufiler vers la sortie du wagon. Surtout, en partant, ne pas oublier les bagages, skis, etc. Toutes ces choses qui font la joie du skieur. Enfin, il est sorti du wagon. Il y a de la neige à mes pieds, il fait nuit, un vent glacial le prend. Fernande le suit. Il suit les voyageurs qui sortent de la gare. Devant la gare se trouvent des cars où les gens s'engouffrent et des taxis. Émile veut un taxi. Ils n'ont pas le courage de prendre un car. Un petit gros chauffeur lui demande. C'est pour où? Pour Chevel. Lequel? Il fait signe à Fernande qui lui dit. 1650 Morieux. Bon, montez. Les skis sont mis sur le taxi. Les bagages dans le porte-bagages. Et c'est parti. Émile a très chaud. On étouffe. Enfin, le taxi sort de Moutier et prend la route qui monte. Je vois leur dire. Il y a 2 heures, ils ont déneigé. Heureusement, on n'aurait plus pu passer. Après un quart d'heure de route, en tournant, le chauffeur n'a cessé de parler et où Émile, par politesse, a été obligé de dire « oui, oui ». La chaleur aussi. Tout ça fatigue Émile. Fatigue beaucoup Émile. Tout à coup, il sent qu'il va vomir. Il se sent honteux, mais il est obligé de dire « Vous ne pouvez pas vous arrêter, s'il vous plaît. Pourquoi ? Quoi ? Vous ne pouvez pas vous arrêter, s'il vous plaît. Hein ? Pourquoi faire ? J'ai envie de vomir. Ah ! Je ne peux pas pour le moment. Il n'y a pas de bas côté. Attendez une minute, un peu plus loin. Vers la montée. Ce doit être le virage 1. Qui ont dû vous fatiguer. Fernand lui dit, vous êtes tout pâle, mon pauvre Émile. Je ne savais pas que vous craigniez la voiture. Émile a honte. Honte. Non seulement il a envie de vomir, mais il se sent humilié. Enfin, le satané chauffeur vient de s'arrêter. Émile sort de voiture. En vitesse, il va se mettre sur le bord d'un ravin pour vomir. Il est tout tremblant, la gorge irritée, la bouche amère. Il s'essuie et va vers la voiture. Il y entre avec mauvaise grâce en se disant qu'il faut encore faire un long trajet. Fernand lui demande, ça va mieux? Oui. Vous êtes encore tout pâle? Le chauffeur demande. Alors, on peut partir? Oui, vous pouvez partir.
Cette année,
S'arrête au bord de la route principale à Morlaix 1650 entre Courchevel 1500 et 1850. Le chalet se trouve en bas du talus. Il faut descendre un petit chemin enneigé. Un chalet individuel d'un étage moderne. Il y a une grande terrasse avec de grandes baies vitrées. En descendant avec tout le bazar, il voit que c'est tout illuminé. Fernande sonne à la porte. Lui a ouvert une grande mince rouge à cheveux longs qui ondulent, le visage très doux. Elle porte un pull blanc et un pantalon marron. Malgré la simplicité de ses vêtements, elle a beaucoup d'élégance.
Bonjour Fernande.
Bonjour Barbara.
Elle s'embrasse.
Entrez. Je vous en prie, ils entrent.
Émile est pris par la chaleur et la lumière. Fernande présente Émile à Barbara.
Je présente Émile. Tu sais le jeune homme dont je t'ai parlé?
Oh oui, c'est gentil, beau jeune homme.
Elle lui fait la bise et lui dit:
déposez vos skis devant l'entrée et venez, je vais vous montrer vos chambres.
Il monte des escaliers de bois. Sur les murs, il y a de la boiserie. Puis, suivre un petit couloir. Barbara peut ouvrir une porte.
Voici celle de Fernande. La mienne est juste à côté de la tienne, ma chérie.
Oh, merci.
Elles entrent toutes les deux. Émile est resté dans le couloir. Il entend Léa, Léo, les merci de Fernande. Puis Barbara sort de la chambre. Elle va montrer à Émile sa chambre qui est un peu plus loin.
Voici, entrez.
Il entre. La chambre est grande avec des meubles campagnards, des doubles rideaux bordeaux et avec un édredon rouge.
Voilà, j'espère que cette chambre vous plaît.
Oui, merci, elle est très belle.
Bon, eh bien, je vais vous laisser vous préparer et pour le dîner. Mais prenez votre temps.
Elle se dirige vers la sortie. Et se retourne pour lui dire:
Fernande a vraiment de la chance. Je vous trouve très séduisant.
Ah, j'oubliais. La salle de bain est en face de votre chambre.
Et elle le quitte. Émile quitte son parka, prend son sac de voyage pour commencer à ranger. Une heure plus tard, lavé, rasé de près, parfumé, pris de l'aspirine et un bon bain d'eau chaude, habillé d'un pantalon marine et d'un pull blanc, il descend. Il entend du bruit derrière une porte. Frappe.
Entrez, lui crie Barbara.
Il entre. Un grand salon, salle à manger, style campagnard avec de grandes baies vitrées sur la vallée, grande cheminée où pétille un bon feu. Il y a Barbara, Fernande, qui a mis une robe beige en laine. Il y a un homme d'une trentaine d'années, de taille moyenne, maigre, les cheveux et une barbe noire, des lunettes métalliques. Il porte un jean velours noir et un pull marine. Barbara dit
« Ah, voici Émile. Émile, je vous présente Victor. »
Ils se disent bonjour. Barbara demande
« Mon Émile, vous désirez boire ?»«
Non, merci. » Fernande dit
« Merci, donne-moi un remontant. Il a été malade. Il a même vomi pendant le voyage. »
Il le regarde. Il ne sait où se mettre. Mon Dieu, la garce! Pourquoi a-t-elle dit ça? On va me prendre pour un idiot qui ne supporte pas la voiture. Car à notre époque, les gens qui ne supportent pas la voiture sont des moins que rien. On dit qu'ils sont malades. S'ils sont malades, c'est parce qu'ils ont peur en voiture. Oh, quelle garce!
Barbara lui dit « Oh, mon pauvre chou! Venez vite vous asseoir. Je vais vous présenter mon petit remontant.
Mais je vais bien. Je vais beaucoup mieux. » Elle le prend par le bras pour le faire asseoir dans un fauteuil. Fernande est assise dans le fauteuil qui est en face de lui. Barbara revient avec un grand verre, rempli d'un truc bizarre, verdâtre et marron. Rien qu'à le voir, on en a des nausées. Elle lui tend le verre et lui dit
« Tenez, buvez-moi ça !»
Il prend le verre.
Thank you.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.